Radio Prague, les informations.
Vladimir Poutine est arrivé ce mercredi dans la capitale tchèque. Václav Havel et d'autres personnalités du monde entier dénoncent la politique russe en Tchétchénie. Et Madonna risque un procès avec une société tchèque productrice d'explosifs. Le président russe est donc arrivé ce mercredi à Prague pour une visite officielle de 2 jours. Au programme sont notamment prévues des rencontres avec le président Václav Klaus et le premier ministre Jiří Paroubek. Avant d'arriver à Prague, Vladimir Poutine a fait une escale de 2 jours à Budapest, la capitale hongroise. Au mois de février de l'année dernière, il s'était rendu en Slovaquie, à Bratislava, où il avait alors rencontré son homologue américain George Bush. Et en marge de l'arrivée de Vladimir Poutine, dans un texte publié par le quotidien Mladá Fronta Dnes ce mercredi, l'ancien président tchèque Václav Havel, ainsi que plusieurs prix Nobel de la paix et personnalités mondiales, ont dénoncé la politique russe en Tchétchénie et, je cite, « le retour à l'autocratie à Moscou ». Le texte, intitulé « Ne fermons pas les yeux sur les actes de la Russie », a notamment été signé par le philosophe français André Glucksmann, le prince jordanien Hassan ibn Talal, l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, George Soros et les prix Nobel de la paix sud-africains Desmond Tutu et Frédéric de Klerk. La rénovation du pont Charles devrait commencer en juillet prochain. La municipalité de Prague a en effet annoncé mardi que ce célèbre pont, l'un des principaux monuments du cœur historique de la capitale tchèque, sera l'objet d'importants travaux de réfection, des travaux durant lesquels les passants et touristes pourront toutefois continuer de le traverser. Cette rénovation a été dessinée en raison de la dégradation du monument, due en particulier à des infiltrations et à l'érosion de blocs de grès. Le pont Charles avait été menacé par les inondations catastrophiques de l'année 2002. D'un coût estimé à 8,8 millions d'euros, les travaux doivent se terminer en 2007 pour célébrer les 650 années depuis la pose de la première pierre de l'ouvrage par Charles IV le 9 juillet 1357. Et je vous le disais en titre, Madonna pourrait faire l'objet d'une plainte en justice de la part d'une entreprise tchèque. Explosia, producteur du célèbre explosif Semtex, souhaite en effet porter plainte contre la chanteuse américaine qui a fondé en janvier dernier en Grande-Bretagne une nouvelle société appelée Semtex Girl Limited. Explosia, qui a déjà vendu le nom Semtex à un fabricant de boissons énergétiques, détient les droits d'utilisation de la marque à l'international et entend bien faire valoir ses droits, selon son directeur Ladislav Lerky, qui a indiqué que la marque avait été estimée à plus de 4,5 millions d'euros. On termine ce bulletin avec la météo, comme d'habitude. Des températures en baisse jusqu'à moins 12 degrés la nuit et autour de 0 degré dans la journée. Ce sont les prévisions pour jeudi. Jeudi qui sera le jour de fête des Agnieszka en République tchèque. C'était les informations présentées aujourd'hui par Alexis Rosenzweig. Et dans un instant, vous retrouvez la suite de notre programme en français.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous être fidèles à l'écoute de ce quart d'heure d'actualité. Nous l'entamerons par la visite du président de la Banque mondiale en République tchèque, une visite dont l'objet constitue un événement dans l'histoire récente du pays et son évolution économique depuis 1989. Politique, le président de la Russie, Vladimir Poutine, est en visite en République tchèque pour la première fois depuis 13 ans. Nous verrons quel est le regard de la presse et des intellectuels tchèques sur la Russie contemporaine. En culture, nous évoquerons la réouverture de la collection d'art français à la Galerie nationale de Prague. En fin d'émission, nous entendrons également un de nos fidèles auditeurs, Éric Cordier, de passage à la radio, s'exprimer sur l'avenir de la radiodiffusion en ondes courtes avant de conclure avec un entretien avec l'écrivain français Laurent Mauvignier. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Depuis mardi, la République tchèque fait officiellement partie des États considérés comme développés par la Banque mondiale. Son président, Paul Wolfowitz, était présent à Prague tout spécialement pour l'occasion afin de confirmer cette promotion au sein de l'organisation internationale qui lutte contre la pauvreté. Une nouvelle étape dans l'histoire post-communiste du pays qui confirme la bonne santé actuelle de l'économie tchèque. Désormais, la République tchèque ne recevra donc plus de crédit de la Banque mondiale et devient un membre dont les cotisations serviront à venir en aide aux pays plus pauvres et moins avancés. Paul Wolfowitz s'est montré très élogieux à l'égard des progrès de l'économie tchèque depuis la révolution en 1989 et le passage à un système capitaliste.
Depuis mon dernier séjour, voilà cela 15 ans, vous avez grandement avancé, principalement ces dernières années. Aujourd'hui, vous n'avez plus à résoudre les problèmes des pays en développement, vous devez faire face aux mêmes défis que ceux auxquels sont confrontés les riches. Vous pouvez aider les pays pauvres en leur servant d'inspiration. Vos réformes et le changement d'économie et de société peuvent être pour eux des exemples à suivre. Ces pays n'ont en effet pas seulement besoin d'argent, mais aussi d'une aide intellectuelle et de conseils.
Une fois cette valse de louanges achevée, l'ancien secrétaire d'État à la défense du gouvernement de George Bush, bien connu pour avoir été un des principaux artisans de l'invasion militaire en Irak, n'a toutefois pas manqué de rappeler au gouvernement de Jerzy Parubek et à son jeune ministre des Finances, Bohuslav Sobotka, que des efforts restaient à accomplir, notamment en procédant à la réforme indispensable du système de financement des retraites et de la santé. Deux domaines dans lesquels aucun des gouvernements jusqu'alors en place n'a osé se lancer, préférant toujours retarder l'échéance. Le président de la Banque mondiale s'est également intéressé à la situation des Roms tchèques, la population la plus nécessiteuse du pays. À cet égard, il a rappelé toute l'importance de l'éducation, qu'il considère comme la base de sa philosophie d'aide aux pauvres. Aidez-les pour qu'ils sachent ensuite s'aider eux-mêmes, a-t-il expliqué. Quant à Jerzy Parubek et à Bohuslav Sobotka, ils ont assuré Paul Wolfowitz que la République tchèque se sentait comme un pays riche. Le Premier ministre lui a expliqué comment le pays entendait conserver une croissance économique de 4 à 6% dans un proche avenir pour atteindre le niveau de vie moyen en Europe en 2013. Car comme l'a mentionné le journal Mladá Fronta Dnes, si la République tchèque est certes aujourd'hui un pays riche, elle est encore un pays riche parmi les pauvres et un pauvre parmi les riches. Il y a 13 ans, Boris Yeltsin était venu à Prague. Depuis, aucun président russe n'avait rendu visite à la Tchéquie. Il n'est donc pas étonnant que la visite de Vladimir Poutine à Prague suscite une grande attention de la part de la presse tchèque. En dehors du côté officiel, elle s'intéresse aussi à l'image de la Russie d'aujourd'hui et présente les opinions de diverses personnalités. Alain Slivinski.
Le quotidien économique Hospodarské noviny considère la Russie actuelle comme un bon partenaire économique avec lequel la Tchéquie entretient des relations au niveau standard. Il fait remarquer que ce sont surtout les milieux financiers et industriels qui tournent leur regard vers le géant de l'Est, un géant à l'égard duquel on continue à ressentir pourtant une certaine crainte. Dans cette optique, la République tchèque ne diffère guère des autres petits pays européens. Une crainte qui s'est révélée comme justifiée avec la récente affaire des livraisons de gaz à l'Ukraine qui avait touché l'approvisionnement en gaz de certains pays européens. D'un autre côté, les investisseurs tchèques sont intéressés par le marché russe, comme l'usine automobile Skoda, par exemple, qui devrait commencer à fabriquer son modèle Octavia en Russie vers la fin de cette année. À ne pas oublier non plus les quelques 200 000 touristes russes qui sont venus en Tchéquie en 2005. À la question de savoir si la Russie actuelle serait un danger pour la démocratie, Jiří Dienstbier, ancien ministre des Affaires étrangères, répond qu'elle ne peut mettre en danger que sa propre démocratie. Josef Jelenets, ancien chef de la diplomatie aussi et député européen aujourd'hui, est du même avis, en ajoutant que la Russie peut être un facteur important de la stabilité mondiale à condition qu'elle-même connaisse une stabilité basée sur la démocratie et l'économie de marché. Les commentaires de la presse tchèque reconnaissent en général que la Russie a fait un grand pas vers cette stabilité, cela grâce aussi au président Vladimir Poutine. De bonnes relations existent donc entre le géant russe et la Tchéquie, mais certaines ombres subsistent. La Russie voit d'un mauvais œil le soutien tchèque au changement démocratique dans d'autres pays, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie. La Tchétchénie reste un grave terrain de friction. Le quotidien Mladá Fronta Dnes reproduit d'ailleurs un article de l'association des journaux du monde entier, Project Syndicate. Il est intitulé « Ne fermons pas les yeux sur les actes de la Russie » et signé par des personnalités de renom, dont l'ex-président tchèque Václav Havel, le philosophe français André Glucksmann, le prince de la Jordanie Hassan Ibn Talal ou Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Ces personnalités font remarquer que le monde n'a pas le droit de se taire face aux actes des forces armées russes en Tchétchénie. Sous le couvert de la lutte contre les terroristes, en effet, des civils sont tués tous les jours, la capitale Grozny a même été rasée. Les signataires rappellent que la guerre en Tchétchénie dure depuis 3 siècles et qu'il s'avère comme indispensable d'aider la Russie à sortir de ce piège. Pour cela, la question tchétchène doit faire partie du sommet G8 qui aura lieu en juin prochain à Moscou justement. Elle ne peut être ignorée à aucun forum du monde démocratique.
Pour marquer la réouverture de sa fameuse collection d'art français des 19e et 20e siècles, la Galerie nationale de Prague expose en guise de cadeau au public un tableau de Paul Gauguin, Les Aliscans, emprunté au musée d'Orsay de Paris. Yarka Gisubelova pour plus d'informations.
Fermée depuis le début de l'année pour des travaux de restauration, la collection d'art français accueillit mardi les premiers visiteurs dans une nouvelle toilette. Elle est introduite par des tableaux de Delacroix, ceux de l'école de Barbizon, continue par le tableau de Corot, Van Gogh, Picasso et termine par Derain, Bonnard et Chagall. La collection d'art français que la Galerie nationale de Prague possède est tout à fait exceptionnelle pour sa qualité et son intégrité. D'où aussi la question de savoir qui se trouvait à sa naissance, à qui la doit-on. Olga Uhrova, conservatrice de cette collection, explique.
La fondation de la collection française remonte à 1923. En cette année, une exposition d'art français a eu lieu à la maison municipale de Prague et à cette occasion, on a acheté les 14 premières œuvres de Rousseau, Gauguin, Cézanne et Rodin. En la même année, le docteur Vincent Kramář et d'autres représentants de la nouvelle orientation de la culture tchèque vers la France ont mis le cap sur Paris pour acheter aux galeristes Ambroise Vollard et Daniel-Henri Kaivaler d'autres œuvres de style nouveau dans le cubisme. C'est ainsi que Vincent Kramář a réuni une collection d'œuvres de Picasso tout à fait unique en son genre et ramené à Prague 25 œuvres de Braque, d'Erin et d'autres artistes. À part Kramář, divers artistes tchèques enthousiasmés par l'art français, dont Emil Fela, Bohumil Kubešta et Pavel Janák, ont organisé une collection pour pouvoir acheter un tableau de grande dimension d'un trait de Rhin, la baignade qui est aujourd'hui la fierté de la collection. Dans les années 1936-1937, la galerie a acquis le célèbre tableau « Bonjour, Monsieur Gauguin ». Après la guerre, la collection a encore été élargie des tableaux de Degas, d'un Monet et de certaines plastiques.
Pour la réouverture de la collection, la galerie a voulu réserver une surprise aux visiteurs. On écoute toujours Olga Uhrova.
À partir du 28 février, la galerie accueille pour 3 mois une importante œuvre de Paul Gauguin, Les Aliscans, créée en 1888 près d'Arles, où Gauguin a plusieurs fois séjourné lors de ses visites rendues à Van Gogh. Cette ancienne nécropole gallo-romaine établie le long de l'ancienne voie aurélienne a inspiré les deux artistes. Le tableau de Gauguin, Les Aliscans, a été emprunté au musée d'Orsay de Paris en échange de l'une des œuvres les plus précieuses de notre collection, Moi, le portrait, le paysage d'Henri Rousseau. La Galerie nationale l'a prêté pour une rétrospective du peintre qui a eu sa première à la Galerie Tate Modern de Londres et qui se tiendra du 13 mars au 19 juin au Grand Palais de Paris.
Éric Cordier de Rennes en Bretagne élargit la liste de nos auditeurs que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans les locaux de Radio Prague à l'occasion de leur séjour dans la capitale tchèque. Il s'est exprimé au micro d'Alena Gebertova.
Je suis simplement venu en touriste et puis évidemment en venant en touriste, je me suis dit qu'il fallait que je passe une heure voir les gens de Radio Prague. Mais le tourisme d'abord, parce que quand même Prague c'est la ville lumière de tout ce que j'ai pu en voir sur Internet. C'est vraiment, c'est attirant. Ça fait longtemps que je voulais venir à Prague. Et puis là, l'occasion était qu'un membre de ma famille fait des études à Brno. Donc l'occasion a fait le larron, nous sommes venus. Et j'ai fait d'une pierre deux coups. Tourisme, Radio Prague. La ville en général, c'est vraiment une ville lumière éblouissante. Si je reviens en Tchéquie, je pense que je viserai Prague évidemment pour relier la Tchéquie. Mais j'essaierai de voir les choses à l'extérieur. Parce que je pense qu'une capitale n'est pas le pays.
Depuis quand vous écoutez les émissions de Radio Prague ?
Bon, on va dire que j'écoute Radio Prague depuis à peu près 3-4 ans, depuis que j'ai repris l'écoute des ondes courtes. J'écoute les stations du monde entier exclusivement sur ondes courtes. Je pourrais le faire sur Internet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est facile. Mais je trouve ça plus amusant de le faire sur ondes courtes. Il y a de la difficulté. Je ne suis pas plutôt un auditeur, je pense que c'est le terme qui va bien, assidu. Mais quand j'ai l'occasion de tomber sur vos programmes, c'est un vrai plaisir. Vous savez faire de la culture ici.
Quels sont vos programmes préférés ?
Les programmes culturels. C'est essentiellement ce que je recherche quand j'écoute les stations sur les ondes courtes, les programmes culturels. Je voudrais découvrir les facettes insolites des pays que j'écoute.
Et quel avenir, d'après vous, pour les émissions en ondes courtes ?
Mais écoutez, ce que j'entends, ce que je lis, l'avenir est bien sombre. Tout Internet a pris le dessus. Donc, de toute façon, je crois que faut pas se voiler la face. Les ondes courtes, l'avenir est vraiment très, très incertain. Mais on n'est pas à l'abri d'un sursaut. Le problème des ondes courtes et de son futur, c'est qu'Internet, c'est accessible aux gens riches, aux gens du Nord. Et sûrement pas aux gens du Sud, aux petits paysans africains ou sud-américains qui, lui, a juste besoin d'une radio à pile et qui la transporte dans son champ ou dans son train ou dans son tracteur. Donc, faudrait que les décideurs prennent ça en compte. S'ils veulent vraiment s'ouvrir au monde entier, il n'y a pas que les gens d'Occident et du Nord qui écoutent. Il y a aussi ceux des pays émergents et pauvres.
C'est à l'Institut français, à la Faculté des Lettres de l'Université de Prague, mais aussi à l'Alliance française de České Budějovice en Bohême du Sud, que le public tchèque a eu l'occasion de découvrir ces jours-ci l'écrivain français Laurent Mauvigné. Auteur de plusieurs romans appréciés par la critique, lauréat du prix Livre Inter, il étonne par l'art de donner la vie à ses personnages, son style dépouillé et la précision de sa langue. Il a répondu à quelques questions de Václav Richter.
Vous avez dit dans une interview, je ne sais pas ce qu'est la vérité, je sais seulement qu'il y a des trucs qui n'en sont pas. Peut-on en déduire que vous dénoncez par votre travail littéraire ce qui n'est pas la vérité ?
Je n'aurais pas cette prétention-là, mais disons que c'est vrai que très souvent, on s'embarrasse de tellement de choses, de tellement d'artifices. Parfois, c'est vrai qu'en écrivant, il y a un mouvement d'humeur, quoi, on va dire, une espèce de... Non pas pour dénoncer des choses, pour dire le mensonge, etc. Parce qu'en même temps, la vérité dans un livre, c'est des vérités parcellaires qui appartiennent à des personnages. En plus, c'est la vérité d'une perception, c'est pas la vérité... J'ai envie de dire, c'est pas la vérité vraie, c'est que ce sont que des perceptions. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens un monologue, parce que le personnage à ce moment-là n'a que son point de vue, et c'est la seule vérité qu'il a, quoi. C'est son point de vue, quoi.
Aujourd'hui, vous êtes à Prague, c'est une ville littéraire. Il y avait des écrivains français qui ont séjourné à Prague, par exemple Claudel ou plus près de nous Sylvie Germain. Et Prague leur a fait une forte impression et s'est reflété dans une certaine mesure dans leurs œuvres. Quelle est votre impression de Prague ?
C'est étrange parce que cette ville, on a l'impression de la connaître parce qu'effectivement c'est une ville mythique, on nous en a beaucoup parlé, on a vu beaucoup d'images, etc. Et en même temps, ça a une puissance d'évocation. Je crois que c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est hallucinant en fait, vraiment quoi. Tout à l'heure, je pensais au pont Charles et je me disais, mais ces grandes figures noires comme ça, là, de statue, ça me faisait penser à Dante en fait, et je me disais, mais on a vraiment l'impression que c'est l'entrée de l'enfer, quoi. Et j'y suis retourné hier soir, alors il y avait évidemment plus personne, tant mieux, parce que la journée c'est un peu difficile. Et ces grandes figures, c'est vraiment très impressionnant, quoi. Oui, c'est vrai que c'est drôle, ça, j'ai pas du tout pensé aux figures, bon, Kafka évidemment, tout ça, mais vraiment, c'est Dante en fait, j'ai pensé à Dante.
Est-ce que cela se reflétera d'une façon ou d'une autre dans quelques écrits de vous ?
Peut-être, tout est bon pour ça. Et une ville comme ça, elle est déjà là avant de toute façon, parce que elle est là chez d'autres écrivains, donc elle est déjà d'une certaine manière intégrée. Elle est plus là comme confirmation de ce que j'y trouve, des choses qui résonnent, c'est sûr. Et donc peut-être, mais je sais pas après si elle peut servir nommément, mais son atmosphère, oui, ça c'est sûr.
Voilà, vous pouvez entendre l'intégralité de l'entretien avec Laurent Mauvigné ce samedi dans la rubrique Rencontres littéraires. Et c'est là-dessus que prennent fin ces faits et événements. Merci de votre attention. Tout de suite, place à l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Merci d'être avec nous à l'écoute de ce chapitre de l'histoire préparé aujourd'hui par David Allon et présenté par Jirka Gisublova. Nous reviendrons sur la révolution industrielle en Bohême au XIXe siècle. Cet épisode au long cours a été particulièrement fondateur pour l'histoire du futur État tchécoslovaque et il permet d'expliquer la spécificité des terres tchèques dans le contexte centre-européen. Si la révolution industrielle évoque d'abord le XIXe siècle, c'est au XVIIIe que tout se met en place. Après la perte de la Silésie par l'Autriche, il revient à la Bohême de prendre la relève pour devenir un centre d'artisanat actif. La proto-industrie qui se met en place présente des formes archaïques et se caractérise par un système de manufacture disséminé. L'entrepreneur donne au tisserand et au filandier la matière première qui est ensuite travaillée à domicile. L'ouvrier est payé à la pièce. Dans quelques villes, Brno, Jihlava, Liberec, un phénomène de manufacture concentrée apparaît dès les années 1770. Et c'est la production drapière qui jette les bases du futur développement industriel. Celle-ci est fortement stimulée par les fournitures aux armées, mais aussi par l'abolition du monopole d'État. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, on peut déjà mesurer le formidable développement des secteurs du coton, du lin et de la laine, qui emploient en Bohême 600 000 personnes, soit un cinquième de la population. Symbole annonciateur des évolutions ultérieures, la première raffinerie de sucre de canne est créée en 1787 à Zbraslav, près de Prague. Le XIXe siècle voit, lentement mais sûrement, la Bohême rattraper son retard industriel sur les pays d'Europe occidentale. Le siècle est celui de la machine. Dès 1797, la première filature mécanique de coton voit le jour à Vernežice, suivie par le tissage mécanique à Brno. Dépendantes de la force motrice hydraulique, les premières grandes usines s'installent de préférence dans les régions frontalières riches en cours d'eau. Elles dessinent ainsi une répartition des régions industrielles qui est restée à peu près identique jusqu'à nos jours. C'est en 1814 que la vapeur est utilisée pour la première fois à Brno. À ce moment, on est vraiment passé de la manufacture à la grande production mécanique et celle-ci se généralise à partir des années 1840, touchant l'agroalimentaire et surtout les transports. Les pays tchèques seront d'ailleurs les premiers en Europe à construire dès 1832 une ligne chemin de fer. Les forgeons de charbon de Fürstenberg dans la région de Křivoklát y jouent un rôle déterminant. 4 ans plus tard, en 1836, une ligne de chemin de fer relie Vienne aux mines de fer de Moravie du Nord. Tout au long du XIXe siècle, la figure de l'industriel prend une nouvelle forme, celle du self-made man. Et les grandes réussites commerciales et technologiques se déclinent sur des noms, les frères Klein dans le secteur ferroviaire, Johann Liebig ou encore le célèbre Škoda à Plzeň. Notons que la plupart des chefs d'entreprise sont à l'origine des meuniers ou des paysans riches. La montée de l'influence économique des non-nobles marque une nette rupture avec les représentations sociales. La révolution industrielle entraîne, sans révolution sanglante, la montée de la petite et de la moyenne bourgeoisie. Pour beaucoup d'historiens, cette évolution sur le long terme explique la solidité de la démocratie tchécoslovaque sous la Première République. Revenons en arrière au XVIIIe siècle, on voit nobles et roturiers participer chacun au début de l'industrialisation. Mais les bourgeois et certains paysans voient aussi dans l'entrepreneuriat une manière de se détacher du pouvoir seigneurial. Les manifestations de Verrier de 1765 à 1767 s'opposent aux divers freins que met la noblesse dans la bonne marge des manufactures. En France, en 1789, c'est la bourgeoisie qui fait la révolution politique. En Bohême, le phénomène est différent et c'est la révolution industrielle qui crée une solide bourgeoisie qui s'affirme tout au long du XIXe siècle pour remplacer presque totalement la noblesse dans la gestion des affaires publiques. Une révolution silencieuse et naturelle en somme. Mais comme ailleurs en Europe, la question sociale prend de plus en plus d'importance. Les conditions de travail des ouvriers n'ont jamais été aussi dures en Bohême qu'en France ou en Angleterre, et le travail des enfants était réglementé par les autorités. Mais la famine des années 1846-47 exacerbe les revendications face à une vie somme toute pénible. En 1844, une grève s'accompagne de destruction de machines et la même année, une manifestation des ouvriers des chemins de fer est réprimée à coups de fusil. La révolution industrielle en Bohême aura préparé tout au long du XIXe siècle les bases de l'indépendance tchécoslovaque au siècle suivant. Sous la Première République, le pays se pose d'emblée comme une solide puissance économique en Europe. Notre émission est ainsi terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in